Ok, donc Frédéric Lemarcy, ben, je vous laisse vous présenter. Alors l'idée, c'est à la fois de parler de votre travail sur l'épidémie d'Ebola, mais aussi de parler de qu'est-ce que c'est qu'un anthropologue, qu'est-ce que c'est que le travail d'un anthropologue, puisque bon, c'est vrai que souvent on s'intéresse aux travaux des anthropologues, mais moins aux travaux des scientifiques, mais moins aux scientifiques en tant que tels. Et donc c'est aussi l'esprit ici de remettre un peu de la chair dans tout ça. Et donc peut-être prenez largement le temps de vous présenter comment on arrive à être anthropologue. Qu'est-ce que c'est au quotidien d'être anthropologue? Comment s'organisent vos journées? Donc, je vous laisse la parole.
Merci pour cette occasion de partager ce que c'est que l'anthropologie. Alors, j'ai pas la prétention de finir avec ce qu'est l'anthropologie à partir de ma propre expérience, mais en tout cas, ça a une réalité de ce que pourrait être l'anthropologie à partir d'une expérience qui est la mienne et qui est. Mais je pense que. Autant d'anthropologues, autant d'anthropologie, donc voilà, c'est pas une prétention à être universelle. Alors en réfléchissant à la question que vous m'aviez posée, je me suis dit peut-être qu'il faut commencer par définir ce qu'est l'anthropologie ou quelles sont les méthodes de l'anthropologie. Et à partir de là, j'espère pouvoir vous raconter un petit peu mon parcours scientifique en vous montrant comment ce parcours-là m'a amené à travailler finalement sur Ebola. Ces dernières années et à retourner y travailler puisque je vais partir normalement en février pour 2 ans en Guinée-Conakry pour travailler sur l'histoire des épidémies en Guinée avant Ebola, puisqu'en fait on pourra en reparler, mais les épidémies d'Ebola elles ont été présentées comme une nouveauté, mais en fait elles sont pas si nouvelles que ça et elles posent des questions autour de l'histoire de la vie des êtres, des humains et des non-humains entre eux et la vie avec les virus. Alors, en réfléchissant à comment présenter l'anthropologie, je me suis dit, peut-être qu'il faudrait vous lire une citation d'un auteur qui n'est pas un anthropologue, mais qui est un sociologue et qui s'appelle Everett Hughes, et qui est un des pères de ce qu'on a appelé l'école de Chicago. L'école de Chicago, c'est des sociologues qui, à l'université de Chicago, se sont dit, au fond, et je pense que ça va bien avec le thème de ce café en ville, puisque ce sont des sociologues qui se sont dit, mais il faut arrêter d'aller au bout du monde pour étudier les autres, mais il faut sortir de nos universités et regarder ce qui se passe dans la ville. Et Everett Hughes, donc c'est un sociologue, qui a été l'un des fondateurs de cette école, l'école de Chicago, qui s'est beaucoup intéressé aux relations interethniques et à l'expérience de la vie urbaine, en s'inspirant des méthodes de l'ethnographie, notamment pour... la petite histoire de Franz Boas, qui était un spécialiste des Amérindiens en Amérique du Nord. Et quand Everett Hughes essaye de définir ce qu'est le terrain, qui est le terrain, qui est, on en reparlera, le cœur de la pratique de l'anthropologue, Everett Hughes, il écrit « Le travail de terrain sera envisagé ici comme l'observation des gens in situ. Il s'agit de les rencontrer là où ils sont, là où ils se trouvent, de rester en leur compagnie en jouant un rôle qui, acceptable pour eux, permette d'observer de près certains de leurs comportements et d'en donner une description qui soit utile pour les sciences sociales, tout en ne faisant pas de tort à ceux que l'on observe. » Et ça, cette définition de ce que c'est la pratique du terrain, elle est assez juste, mais elle est au cœur de la pratique de l'anthropologue. Pourtant, elle ne se limite pas, elle n'est pas limitative. C'est-à-dire que si on prenait ça, au fond, quand vous partez en vacances et que vous écrivez une carte postale à vos amis, si vous êtes un touriste pas trop lourdingue, vous êtes un anthropologue, on pourrait dire, si on s'en tient à cette définition, puisqu'on fait, au fond, vous allez quelque part, vous faites des expériences et vous décrivez ce que vous avez vécu. L'anthropologie, l'ethnographie, qui est donc la pratique de l'anthropologue, elle se limite pas à ça. Pourquoi ? Parce que ce qui fonde les données de l'ethnographie, c'est pas simplement la description d'une altérité ou la description d'une expérience qu'on a menée à l'extérieur, même si elle est au cœur de notre pratique, mais c'est aussi finalement l'articulation d'une question de recherche qui nous intéresse avec une observation, une question qu'on va confronter à un terrain, qu'on va observer dans une réalité donnée, une réalité qui est située, c'est-à-dire qu'il y a une réalité sociale avec une histoire, une culture, des logiques politiques. On va voir comment cette question se traduit dans les pratiques et dans le quotidien ou l'ordinaire d'une population donnée, dans une situation précise. Et ces questions et ces observations, on va leur donner chair en termes de problématiques, parce qu'on va les confronter avec un corpus de littérature scientifique. Donc on va articuler une question de départ, une observation de réalité sociale avec une littérature. Et cette articulation de ces trois données-là, c'est ça qui va fonder l'ethnographie. L'ethnographie, c'est le résultat d'une discussion entre ce qu'on a observé, les questions qu'on se pose et la façon dont la littérature a traité ou pas de cette question-là. Et c'est ça qui fait l'ethnographie. Ça repose sur quoi ? Ça repose sur ce que... faut sortir un peu des grands noms, alors on va dire un grand nom, Durkheim, qui est le fondateur de la sociologie française, a appelé dans les règles de la méthode sociologique la rupture avec la doxa. C'est-à-dire, le point de départ de cette observation et de ce questionnement, c'est de considérer au départ que l'opinion commune, ce que l'on croit savoir sur une réalité, n'est pas la réalité. Et donc on doit être en rupture avec cette opinion commune pour interroger les réalités sociales et les logiques sociales avec un œil différent. Donc rupture avec la doxa, c'est aussi d'une autre manière, dit d'une autre manière, ce que Lévi-Strauss a appelé le regard éloigné. C'est-à-dire, on part du principe que dans l'expérience de l'altérité, dans l'expérience de la différence, on va avoir un regard distancié par rapport aux réalités sociales qui va nous faciliter l'appréhension des logiques profondes et des réalités qu'on observe, des réalités, des logiques sociales qu'on observe. Donc par ce regard éloigné, je construis un regard qui me permet de prendre une distance avec ce qui est donné à première vue pour en comprendre les logiques profondes et les logiques sociales. Ce regard éloigné, en fait, il ne s'applique pas simplement à la réalité que j'observe. On pourrait parler, en fait, d'un double éloignement, puisqu'il s'agit à la fois de rompre avec ce qui nous est proche, commun, et c'est ce qu'on vit quand on fait une expérience d'altérité, mais également de ne pas s'attacher à ce qui paraît évident dans ce qu'on observe dans la réalité. Donc, double éloignement avec ce qu'on observe, mais aussi avec notre propre subjectivité, en fait, sur ce qui construit notre regard. Et c'est ça qui est, dit rapidement, le cœur de la pratique de l'ethnographie. Cette pratique-là, ce regard éloigné, il se construit sur tout objet, dans toute société, quelles que soient les questions qui nous intéressent. Ça pourrait être, comme Malinowski dans Les Îles Trop Brillants, la culture du tarot et de l'igname dans des jardins, ou la vie des sans-papiers dans des camps de réfugiés, ou la question du soin et des interactions entre le patient et le malade. Tous ces objets-là sont des objets légitimes pour l'anthropologue à partir du moment où le regard qui est posé sur ces réalités-là repose sur cette méthode que je viens de vous décrire. Alors, comment on devient anthropologue de la santé? Bourdieu avait dit dans un article fameux qui s'appelle « L'illusion biographique » qu'il faut se méfier des questions du type « Dites-moi comment vous êtes devenu ce que vous êtes ?» Parce que quand vous posez cette question à n'importe qui, vous suscitez chez la personne une démarche de mise en cohérence et de mise en récit de choses qui bien souvent sont juste arrivées. Et donc ça donne l'apparence d'un projet et d'un truc cohésion, d'un truc qui a une cohérence, alors qu'en fait ça n'en avait pas a priori. Donc je vais vous dire un récit qui n'a pas de prétention à la cohésion, même si ça en a l'apparence. Assez jeune, j'ai été intéressé. Mes premiers souvenirs d'intérêt pour l'Afrique, c'est Band-Aid. On ne doit pas avoir un âge très différent. À l'époque où on collectait du riz pour envoyer du riz en Éthiopie.
Pono.
Voilà, c'est ça. C'était ça. Bon, mes premières interrogations, mon intérêt pour le continent africain, c'était de dire, c'est pas possible, il y a des gens qui meurent là-bas, il faut manger du riz pour leur envoyer de l'argent. Et puis parallèlement à ça, j'ai eu l'occasion, parce que mes parents avaient un ami qui était anthropologue, de lire une thèse d'anthropologie quand j'étais en seconde. Et j'ai réalisé, j'ai rien compris je pense à l'époque, cette thèse m'avait révélé le fait qu'il existait un monde, qu'un autre monde était possible. C'était une thèse sur les cosmogonies ayorées, c'est une population du Grand Chaco en Amérique du Sud à l'origine nomade en forêt et qui ne vivait plus que dans des réserves. Et cet anthropologue avait décrit la cosmogonie de cette population en la recueillant, mais dans des zoos. C'est-à-dire qu'ils allaient avec des chamans dans des zoos, et les chamans disaient « Ah ben cet animal, c'est un tel, celui-ci fait ça, celui-ci c'est un génie. » Et donc c'était pour moi la découverte qu'on pouvait être dans le même monde et ne pas avoir la même représentation et comprendre des choses totalement différentes. Et donc j'avais été fasciné.
Pardon, je vous interromps. Oui. La position de départ, c'était un sentiment que les choses étaient injustes et qu'il fallait s'en investir ou pas vraiment, alors, enfin, par rapport à cette histoire d'Afrique.
Alors, il y a deux choses. Il y a d'abord la question de l'injustice et d'un continent un peu délaissé pour lequel il fallait faire quelque chose. Ça, c'est l'intérêt pour l'Afrique. Et ensuite, l'intérêt pour l'anthropologie, c'est cette découverte d'un autre monde possible. Et puis, j'ai fait mon lycée en me disant, moi, je vais être anthropologue, et en me disant, je veux aussi être africaniste, parce que c'est l'Afrique qui m'intéresse. Et après, à l'issue du bac, je suis allé tout de suite dans un cursus d'anthropologie et de langzo, d'apprentissage du Poulmar, à l'INALCO, enfin, à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales, ce qu'on appelle les langzo. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans un...
Et donc vous savez parler Peul.
Oui, oui. Oui, c'était ma première langue. J'ai parlé d'abord mieux Peul qu'anglais, je pense. Et ensuite, il y a une troisième expérience qui m'a intéressé et qui vous concerne plus ici, c'est la question de la santé. Alors, quand j'essaie de réfléchir pourquoi je me suis mis à travailler sur la santé, il y a deux origines. C'est d'une part une expérience personnelle où ma mère a eu un cancer quand j'étais, je crois que j'étais au collège, fin du collège, à l'époque, où, cancer du sein, et c'était le début, dans mon souvenir, ça n'avait pas la dimension ordinaire que ça a aujourd'hui. Et donc je me souviens de ma mère qui était chauve et qui allait au lycée, qui mettait sa perruque, les traces matérielles de la maladie et la façon dont ça transformait les rapports entre les individus, entre les voisins. Et donc ça m'avait, j'avais été frappé par ça. Et puis à Nanterre, je vais être en licence, j'ai eu Didier Fassin comme chargé de cours à l'époque. Il n'y a pas de poste encore, il était chargé de cours. Et j'avais été fasciné par son cours et son travail. Et donc je me suis engagé dans une anthropologie africaniste sur la santé avec Fassin.
Donc Fassin, lui, il est médecin au départ.
Il était interne chez Gentilini avant de devenir anthropologue, tout en devenant anthropologue. Donc c'est comme ça que l'ère géographique, l'Afrique, la discipline et la thématique se sont articulées pour faire ce que j'allais devenir. Parce qu'aujourd'hui, j'essaie de faire une anthropologie qui a commencé par un premier terrain. Si on se rappelle ce que je vous disais sur le regard éloigné et la prise de distance, la vraie formation de l'anthropologue, c'est pas à la fac, c'est pendant son premier terrain, en fait. Le premier terrain de thèse, et en l'occurrence, pour moi, ça a commencé un peu avant la thèse, mais... Les premiers terrains, c'est là qu'on apprend le métier. Enfin, j'imagine que pour un médecin, la première fois qu'on est seul avec son patient, les premiers patients, ils payent les pots cassés, puis pour les autres, après, ça va mieux. C'est l'expérience, enfin, c'est là vraiment qu'on apprend, c'est pas à la fac qu'on apprend à être médecin.
Un petit peu quand même.
On apprend les choses, mais disons que la construction de son identité d'anthropologue, elle se fait sur son terrain. Et mon premier terrain, ça a été en fait en Guinée d'abord. Dans le Fouta Djallon pour ma maîtrise où j'avais passé 6 mois, puis après en milieu Peul, et ensuite en thèse où j'ai travaillé pendant 2 ans, j'ai vécu dans un village Peul du nord du Mali, un village qui aujourd'hui est inaccessible en raison des activités des djihadistes, et donc j'ai passé 2 ans à étudier en Guinée comme au Mali la question de la production des savoirs thérapeutiques, comment on devenait un thérapeute légitime, quels étaient les savoirs revendiqués, non seulement revendiqués par les individus, mais aussi les savoirs qu'ils pouvaient mettre en œuvre, en montrant, en essayant de comprendre comment, en fonction de la société, de la structure sociale, notamment du statut noble, captif, homme, femme, jeune, vieux, comment certains savoirs étaient accessibles et étaient mobilisables par les acteurs ou pas. Donc j'ai travaillé comme ça sur la production des savoirs et sur la gestion collective de la santé, la façon dont, à l'échelle communautaire, comment à travers la gestion des affaires de la santé, se traduisaient des enjeux politiques qui avaient à voir avec les enjeux du présent, mais aussi avec la longue durée et l'histoire des populations, et notamment les identités subies ou revendiquées d'aristocrates, ou de nobles, ou de captifs, ou d'artisans castés, qui conditionnaient en fait le type de savoir que les gens pouvaient, auquel ils pouvaient accéder, qu'ils pouvaient mettre en œuvre. Et puis, après ma thèse, Didier Fassin m'avait proposé d'aller travailler en Afrique du Sud pour 6 mois. Moi, j'avais une petite fille d'un an, ma femme était enceinte. Donc, j'ai dit, je suis super volontaire de partir en Afrique du Sud, mais je ne peux pas partir 6 mois, il faut que je parte au moins 1 an. Et donc, j'ai déposé un projet de postdoc à l'ANRS. L'Agence nationale de recherche sur le sida, et je suis parti pour 1 an en Afrique du Sud pour travailler sur l'expérience du sida à une époque, c'était dans les années 2000, j'y étais à partir de 2001, à une époque où il n'y avait pas de traitement. Et donc j'ai travaillé avec des gens qui mouraient en permanence pour essayer de voir ce que signifiait pour eux l'expérience de la maladie dans un contexte de démocratisation, mais aussi dans une, où la maladie était significative de mort, en fait.
C'est en quelle année, 91?
Ma thèse était en 95-97, et mon postdoc, j'ai commencé en 2001, je suis parti pour 1 an, et j'y suis resté 3 ans, en fait, en Afrique du Sud, où j'ai travaillé à Soweto et Alexandra, de Township, de Jobo, sur la vie avec le VIH, à l'époque où il n'y a pas de traitement. C'était un peu... La question, c'était, au fond, comment, quel sens on donne à une vie qui est, en fait, une mort lente, et comment on meurt dignement, comment on reste debout dans l'adversité, en fait. C'était un peu ça, mon travail à l'époque. Et j'ai, à ce moment-là, je me suis intéressé à une thématique qui après, sur laquelle j'ai continué à travailler, qui est toujours en lien avec la question du savoir, parce qu'en fait c'est un peu un fil rouge dans mon travail, la question des connaissances et du savoir, c'est qu'à l'époque en Afrique du Sud, la seule façon pour un séropositif d'avoir accès à des traitements, c'était de s'enrôler dans des essais cliniques, puisque c'était le seul espace, le seul lieu où des médicaments étaient disponibles. Et donc, j'ai passé une certaine partie de mon temps à faire enrôler mes informateurs dans des essais cliniques que je connaissais, où je connaissais des gens travaillant dans les essais cliniques, pour qu'ils aient accès, que leurs enfants aient accès à de la nivirapine, que eux aient accès à des antirétroviraux, ou à minima à des soins palliatifs. Et donc, la question de la tension entre recherche clinique et production du soin a commencé à m'intéresser à ce moment-là. Et après mon postdoc, j'ai commencé à développer des projets sur l'anthropologie des essais cliniques, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire de faire des essais cliniques, à la fois les logiques de production des savoirs et l'expérience des essais cliniques, aussi bien du point de vue des acteurs des essais cliniques, des chercheurs ou des cliniciens, que des patients, et ça dans un contexte des pays du Sud. Et j'ai ensuite travaillé beaucoup en Côte d'Ivoire, sur des essais de mise sous traitement précoce sur le VIH, dans des essais de PrEP. Je me suis un peu intéressé au TASP aussi, au Treatment Task Prevention, toujours en essayant de lier la question, l'histoire, les enjeux politiques et d'inégalité qui fabriquent les contextes dans lesquels s'inscrivent ces essais cliniques. La possibilité de faire un essai de cohorte avec 3000 patients, c'est que dans ces 3000 patients, c'est 3000 personnes qui n'ont pas de traitement. Donc avec la question de éthique, de qu'est-ce que c'est inclure, qu'est-ce que c'est que donner le choix d'une inclusion, alors qu'en fait le choix qu'on donne aux gens, c'est tu rentres dans l'essai, tu es pris en charge pendant 5 ans, ou tu n'entres pas et à ce moment-là tu restes sans soins. Donc j'ai travaillé plusieurs années là-dedans avec des gens, des cliniciens, des virologues de l'INSERM, dans le cadre des activités financées par l'ANRS. Et c'est ces gens-là qui m'ont, mais je vais trop vite, ces gens-là qui m'ont ensuite emmené dans le VIH, et je vous expliquerai comment et pourquoi, dans le Ebola, parce qu'en fait, il y a une... la vraie médecine translationnelle, c'est la médecine qui passe du VIH à Ebola. En fait. On voit dans Ebola se reproduire à la fois des associations, des questionnements et des logiques qui sont celles du VIH, et ce qui pose des questions sur la capacité d'innovation et sur les impensés de la prise en charge d'Ebola, comme simplement reproduction du même. Donc, si je repars sur mes premiers terrains, ces premiers terrains, c'est ça mon expérience, c'est ça qui me fait perdre très vite l'illusion de l'exotisme. C'est-à-dire que, évidemment, pour vivre dans un village Peul, il faut apprendre le Peul, on se perd, on s'habille comme un Peul, mais à partir du moment que vous... À partir du moment où vous parlez la langue et que vous interagissez normalement avec les gens, ils sont plus du tout exotiques. Et donc, on voit bien que le moteur qui est souvent le moteur des étudiants en anthropologie, qui est la recherche d'une altérité radicale, et elle est en fait assez illusoire. Et très vite, on la perd. Et on la perd d'autant plus vite qu'après l'expérience Peul, où j'ai eu peut-être un peu la sensation de pouvoir devenir l'autre, d'être indigénisé totalement. Je me suis retrouvé après en Afrique du Sud, où les références de littérature, c'était plus griole et une approche symbolique d'une société figée dans un, qu'on pourrait mettre sous cloche, ou dont on pourrait décrire la culture, mais plutôt des sociétés multiples, traversées par une histoire violente, celle de l'apartheid, avec des quartiers où on parle 11 langues, le Zoulou, le Soutou, le Pedi, le Soutou, l'Afrikaans, l'anglais, et donc on ne peut pas maîtriser une langue. Impossible à Soweto de vous dire, ça y est, je vais maîtriser la langue au point de pouvoir rêver dans la langue de mon terrain, ce qui m'était arrivé en milieu Peul. Et donc je suis passé de griole en fait, et d'un intérêt à la langue, comme véhicule d'une culture, un peu à la manière de Sapir et Whorf, qui était la théorie Sapir-Whorf, qui est une théorie linguistique, ou au fond de sociolinguistique, où à travers la langue on arriverait à déceler les invariants de la pensée, à une approche plutôt intéressée par la parole, c'est-à-dire non pas à la façon dont on parle, mais à ce qu'on raconte quand on parle. Et je me suis plus intéressé à une littérature qui est celle de l'école de Manchester, notamment de Max Gluckman, qui est un anthropologue qui s'est posé la question le premier de dire c'est quoi la situation coloniale, quel est notre présent. C'est-à-dire une anthropologie qui ne ferait pas le tri entre ce qui relèverait d'une influence extérieure et d'une modernité qui salirait une altérité que j'aimerais pure, mais essayant de comprendre les enjeux et les interactions entre le politique, la colonisation, le présent, et évidemment le substrat culturel et historique des populations.
Et donc, juste pour revenir, bon, la variété c'est clinique et la méthode anthropologique au départ, c'est vrai qu'en médecine, on est un peu nourri dans nos études par le fait que pour atteindre la réalité, il faut du chiffre, il faut des études quantitatives, enfin il faut de la statistique, et c'est vrai que, enfin, je sais pas ce que t'en penses Thomas, mais on apprend ça, que s'il n'y a pas suffisamment de population étudiée, on n'arrive pas à la réalité. Et souvent, les médecins sont surpris de la méthode qualitative anthropologique en disant, mais enfin, ce que vous disiez, l'observation, étudier la littérature et une question de recherche, est-ce que ça suffit pour accéder à la réalité? Finalement, quelle est la nature de cette réalité qu'on met en avant dans l'anthropologie par rapport à la réalité de l'épidémiologie?
Je pense que la première chose sur laquelle on doit être d'accord, c'est que que ce soit le chiffre ou la littérature, ce sont des constructions de la réalité. Il n'y a pas, je pense qu'il serait naïf de vouloir opposer une méchante qui serait sèche et qui serait chiffrée et qui échapperait à l'essence même de ce qu'est la vie, et une gentille qui, parce qu'elle écoute les gens, dirait la vie comme elle est. En fait, dans les deux cas, il s'agit de processus de construction d'une réalité. La question qu'il faut se poser, c'est peut-être, dans un cas comme dans l'autre, qu'est-ce qui échappe à cette construction ? Qu'est-ce qui échappe de la réalité, de cette construction de la réalité ?
Qu'est-ce qui détermine cette construction, sinon ?
Alors, qu'est-ce qui détermine aujourd'hui ? On sait que dans le cadre de... il y a ici deux médecins et quelqu'un qui s'occupe du développement. Vous tous, vous savez qu'on est aujourd'hui dans le règne de ce qu'on appelle soit l'EBM, l'Evidence Based Medicine, ou l'EBP, l'Evidence Based Policy. Où aujourd'hui, la légitimité d'une action, que ce soit un protocole de soins, ou si on veut parler comme Esther Duclos d'une action de développement, c'est le fait qu'elle soit à la fois reproductible, et enfin qu'elle soit fondée sur une production de savoir qui soit evidence-based, gold standard, c'est-à-dire reproductible, en double aveugle, dans des cohortes, avec un effet, un placebo, et puis une cohorte interventionnelle. Ça, en fait, ça repose sur une réduction de la réalité qui vise non pas à déterminer l'essence même de la réalité, mais qui vise à identifier, dans une réalité qui est compliquée, un peu sale, on enlève les biais pour trouver des relations de causalité. Et quand on fait cette démarche-là, on ne prétend pas dire la réalité, on prétend identifier des relations de causalité. En partant du principe que cette réduction, cette traduction de la réalité complexe en des relations causales va me permettre d'identifier les zones sur lesquelles je peux agir. Si j'agis sur A, ça a un effet sur B. On sait que ce n'est pas la réalité. Quand on travaille avec des cliniciens qui bossent dans les essais cliniques, ils sont les premiers à vous dire que les résultats qu'ils produisent ne sont pas la vraie vie. C'est les premiers à dire ça. Les plus naïfs, ce serait de dire « Oh, c'est quoi ces cliniciens qui font des essais cliniques et qui pensent que c'est la réalité ?» Les cliniciens savent que ce n'est pas la réalité. Mmh. C'est une réduction de la réalité qu'on doit ensuite encore retraduire pour la ramener dans le grand dehors, dans la vraie vie, et la confronter. Et c'est notamment ce qui se passe quand on fait des phases 4, le stade 4 des essais cliniques, où en fait on confronte nos résultats avec des grandes cohortes pour voir si ça marche. Donc c'est une traduction, et nous aussi, on fait une traduction. Ce qui fonde notre légitimité à dire la réalité telle qu'on l'a construite, c'est pas dans la reproductibilité, c'est pas dans la réduction de la réalité en des relations causales, c'est plutôt en l'intime... Alors je vais employer un mot qui va faire bondir les scientifiques, l'intime conviction. Le fait de pouvoir garantir que la manière dont on produit nos données repose sur une connaissance intime d'une réalité. On préfère des petits échantillons, des petits exemplaires, et pas de chiffres, mais une approche intime de la réalité. Après, à partir de laquelle on va obtenir un effet de saturation, le fait d'avoir discuté longuement avec quelques personnes... je dis quelques parce que ça n'a rien à voir avec des essais cliniques, mais ça peut être 100, 200 ou 10 ou même 5. Mais d'avoir un rapport d'intimité et de confiance qui permet d'obtenir une forme de saturation sur les données. Saturation qu'on obtient aussi, qu'on vérifie par le croisement des informations. On va multiplier les interactions. Et tout ça se fait avec l'usage l'usage systématique de la dialectique que l'on met en place grâce à l'usage du carnet de terrain. Le carnet de terrain, c'est le carnet de notes dans lequel on va prendre les observations, ce qu'on observe, ce qu'on voit, on va y prendre des notes. Et en fait, c'est notre interlocuteur premier sur le terrain. Dans mon carnet de terrain, je note ce que j'observe, mais je note aussi dans quel état je suis, quel effet ça me fait, quelles sont les conditions de cette observation, à partir d'où j'observe, pour essayer, autant que faire se peut, d'objectiver les conditions de production du savoir qu'on va mobiliser. Et ce carnet de terrain, il est très important, puisque quand on écrit, on se replonge dedans, et ça permet de resituer nos observations à des moments précis et dans des contextes d'observation précis qui donnent la légitimité à nos observations. Donc nous, on ne fait pas de laboratoire, on n'a pas d'hypothèse qu'on va tester, c'est ce que fait un essai clinique, c'est-à-dire on pose une hypothèse. Dans le cadre de l'essai clinique dans lequel j'ai travaillé pendant Ebola, c'était un essai sur une molécule, le favipiravir. La question c'était, est-ce que si je donne le favipiravir, il y a un taux de survie important des patients? C'était la question. L'hypothèse était qu'avec le dosage déterminé de favipiravir, on allait avoir un taux de survie. Bon, résultat, il y a eu échec. Hein. Le dosage n'était pas bon. Vraisemblablement, il faudrait refaire un avec un dosage plus important. Mais ça, c'est une démarche qui est hypothético-déductive. C'est-à-dire, je pose une hypothèse et je la teste en conditions de laboratoire. Nous, on est dans une démarche qu'on qualifie d'inductive, c'est-à-dire j'ai des hypothèses, mais les hypothèses sont des prétextes à penser, des questions, dont on ne cherche pas à valider qu'on ne cherche pas à valider sur le terrain, puisque au contraire, un bon anthropologue, c'est quelqu'un, enfin une bonne enquête d'ethnographie, une bonne anthropologie, c'est quelqu'un qui part sur le terrain avec une question et qui revient du terrain en disant mais j'avais tout faux. Parce que si on va sur le terrain, c'est pour apprendre quelque chose. Si notre hypothèse, si on savait déjà avant d'aller sur le terrain, ce qu'on va trouver, c'est qu'on n'a rien appris du terrain. Donc on est dans une démarche d'induction où c'est le terrain qui va déterminer in fine quelle est la problématique, quelle est la question que l'on travaille. Voilà comment okay. on distingue nos deux... comment je propose qu'on les distingue. Alors, en tout cas, pour moi, cette histoire de l'anthropologie, enfin, ces premiers terrains-là, elle est fondatrice d'une anthropologie avec peut-être quatre grandes questions qui m'intéressent, qui sont la langue et la parole, la tension entre comment les gens parlent et la parole, l'histoire, le fait que les sociétés ne vivent pas dans un vase clos, elles ont une histoire, et on doit prêter attention à la longue durée pour comprendre le présent. À la fois parce que la longue durée, donc le passé, construit les conditions structurelles d'existence des gens, est-ce qu'ils ont de l'argent, pas d'argent, une éducation, pas d'éducation, mais aussi parce que la façon dont les gens pensent leur passé constitue un filtre avec lequel ils font l'expérience du présent. Donc l'histoire, elle a deux valences, à la fois une réalité structurelle et à la fois une réalité parce qu'elle produit des imaginaires. Et un troisième point, c'est les enjeux de pouvoir, c'est-à-dire qu'au fond, dans la société, il y a de grosses inégalités et des violences qui structurent le social. C'est ce que j'ai appris en Afrique du Sud, et c'est ce qui s'est confirmé ensuite, notamment en Guinée.
Qu'est-ce que c'était les enjeux de pouvoir en Afrique du Sud, là, c'était sûr.
En fait, on peut pas comprendre le virus... Tout seul, il ne suffit pas à faire une maladie. On ne peut pas comprendre l'ampleur de l'épidémie de sida en Afrique du Sud si on ne resitue pas cette épidémie dans la longue durée de l'histoire sud-africaine et la spoliation des populations africaines de leurs terres, la mise en place d'un travail migrant forcé, la séparation des familles, le fait que les familles étaient les femmes et les enfants dans des homelands et les hommes obligés d'aller travailler en ville, parce que cette histoire-là et ces inégalités produites par la domination blanche en Afrique du Sud a produit les conditions qui vont favoriser à partir des années 90 l'émergence du VIH. Violence dans les familles, des familles éclatées, des prises de risques importantes ou une construction de risques relative au risque général de la vie faite par les individus. Donc, du coup, le VIH tout seul, il ne peut pas faire une épidémie de cet ampleur. Il faut des contextes structurels, politiques qui la fabriquent. Et la même type d'analyse qui a été la première analyse qui a été faite là-dessus, c'est par rapport au VIH, c'est Paul Farmer. Dans son ouvrage le sida en Haïti, où il montre bien, je devrais pas prendre une chips pendant que je parle.
Ah, c'est ça gêne pas.
Nous, c'est vrai.
Si quelqu'un me servir à boire.
Ça gêne juste un petit peu le microphone, mais
t'as voilà. oublié.
Il montre bien Farmer comment en fait la notion de violence structurelle c'est une clé pour comprendre la façon dont si les femmes sont plus exposées. Au VIH, c'est parce qu'elles ont des relations inégalitaires avec les hommes, qu'elles ont moins accès au marché du travail et que pour gagner de l'argent, elles vont éventuellement vendre du sexe. Que l'arrivée du VIH en Haïti, c'est l'histoire d'hommes qui sont mariés mais qui ont des pratiques homosexuelles tarifées avec des homosexuels qui viennent en vacances en Haïti et que ces hommes attrapent le VIH avec ces hommes et ensuite l'amènent dans les familles. Puisqu'ils sont mariés avec une femme, tout ça, c'est ce que Farmer appelle les violences structurelles. On pourra en reparler sur Ebola, et voilà, c'est la même histoire. Donc, inégalité et violence, et le quatrième point, c'est la production des savoirs et les enjeux de connaissance. Qui dit le vrai, qui détient le savoir qui est reconnu, et comment ce savoir est produit. Ces quatre points-là sont en fait ceux qui m'intéressent aujourd'hui de manière générale. Et toujours dans une perspective contemporaine, mais soucieuse de l'histoire. On ne peut pas comprendre le présent sans s'intéresser à l'histoire. Donc je suis passé comme ça, des guérisseurs au VIH, du VIH aux essais cliniques, et des essais cliniques à Ebola. Et c'est peut-être le, sera le deuxième temps de mon long discours, ça sera de, au fond d'essayer de montrer comment en fait mon engagement dans le champ Ebola, au-delà d'une bonne translation bien gérée du VIH qui s'épuise, où il n'y a plus de financement et où finalement on ne sait plus trop quoi faire, à Ebola qui est un nouvel Eldorado des chercheurs, qu'ils soient virologues ou infectiologues ou sociologues, eh bien, c'est pour moi aussi une forme de paiement d'une forme de dette à un pays qui est la Guinée où j'ai fait mes premières armes d'anthropologue, où j'ai appris une langue. Et quand l'épidémie d'Ebola s'est déclarée, pour moi, il était assez clair que si je pouvais faire quelque chose à ce moment-là, ça aurait du sens, parce que j'étais ce que j'étais, j'étais devenu prof de fac, parce qu'un jour, dans un village en Guinée, des gens m'avaient dit bah, « viens, sans problème », et j'ai pu passer plusieurs mois consécutifs dans un village du Foutadjan.
Ok, très bien. Donc, on peut rentrer dans le vif du sujet. Donc là, le but de la soirée, c'est de connaître un auteur, hein, donc vous êtes présenté, et il y avait notamment cet article dans L'Homme, la mise en camp de la Guinée, que vous avez coécrit avec Mme Gomez.
Avec Véronica Gomez Temesio.
Voilà. Et c'est vrai que ça fait écho doublement, cette histoire d'Ebola, parce que, bon, déjà, c'est un peu le scénario qu'on craint d'un virus qui deviendrait pandémique avec un peu le film d'horreur. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui touche les gens. Donc il y a cette dimension sanitaire qui intéresse à l'ethnocafé. Et puis tout autant, cette question qui est aussi notre question de recherche à l'ethnocafé, de qu'en est-il aujourd'hui de l'organisation du monde après la colonisation ? C'est-à-dire, quid de la réalité postcoloniale aujourd'hui ? Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ressortent dans votre article intéressantes là-dessus. Moi, je mène un travail actuellement sur, après ma thèse, un nouveau travail sur 5 ans, sur cette question des rapports Nord-Sud, notamment par un terrain de recherche au sein de l'Association Médecins du Monde, où je suis en responsabilité depuis 6 ans, donc une sorte d'observation participante, et travailler cette question de comment, parce que Didier Fassin, que vous citiez, appelle la tolérance à l'intolérable, comment encore aujourd'hui, finalement, la situation du monde et la situation de l'Afrique, comment il y a cette tolérance finalement de notre société à quelque chose qui est de fait intolérable par son niveau de pauvreté, son niveau de décalage et d'inégalité avec le Nord. Donc là, ce travail-là, il se termine par un bouquin là, que je vais écrire l'année prochaine et qui se prolongera par ce qui est le gros de la recherche avec nos cafés sur la question de la politique de soins. Finalement, qu'est-ce que c'est qu'une politique de soins, une politique qui prend soin de soi, mais qui prend soin de la population. Et, alors, c'est tout en chantier, mais c'est ça un peu qui fait écho dans vos travaux et qui m'a fait envie de vous inviter à parler de cette question. Voilà, donc je vous laisse la parole sur...
Alors... En fait, c'est un peu un oxymore de parler de politique de soins avec Ebola. Parce que la réponse à Ebola, en Guinée, c'est tout sauf une politique de soins, initialement. Quoi qu'en disent les acteurs qui ne veulent pas dire, MSF ne veut pas dire, on n'est pas allé en Guinée pour soigner les gens. On est d'abord allé en Guinée pour empêcher l'épidémie de venir chez nous. Et la logique de la mise en camp qu'on décrit dans cette bouquin, dans cet article, et on est en train d'écrire un bouquin en fait avec Véronica, j'étais avec elle ce matin encore par Skype, on écrit un livre sur la vie ambiguë qui essaie de comprendre quelle vie était à l'œuvre dans ces centres de traitement. En fait, le premier temps de la réponse à l'épidémie, et quand je dis ça, je suis assez gentil, c'était une logique épidémiologique, où en fait on a pris des corps qu'on a mis en quarantaine parce que on pensait qu'ils étaient à risque de transmettre l'épidémie, et on l'a fait. Pour certains cas, on était sûr qu'ils étaient positifs, pour d'autres, on n'était pas sûr. On a fait les PCR première, deuxième, et à la deuxième, on découvrait qu'ils étaient négatifs, ils repartaient, mais. Une semaine après, ils revenaient parce qu'ils avaient chopé le virus dans les centres de traitement. Cette ambiguïté dans la fonction même du centre de traitement Ebola, entre une réalité pratique qui était un containment, un confinement du virus, et un discours qui est présenté comme des centres de soins, a créé toutes les violences et les ambiguïtés qui ont posé tant de problèmes à l'épidémie, à la réponse à l'épidémie Ebola en Guinée, mais qui se répète de la même façon, à l'identique, en RDC en ce moment. Entre parenthèses, c'est aussi intéressant de voir, vous parliez des constructions de l'intolérable, de façon, c'est aussi intéressant de voir comment l'épidémie dans les pays de la Mano River, donc Guinée, Sierra Leone, Liberia, a été pensé comme une urgence, a été construit même comme une urgence de portée mondiale, avec suscitant l'intervention, l'appel de, on se souvient de l'appel de MSF, a venu d'envoyer l'armée, la constitution de l'UNMER, donc la réponse de l'ONU à cette urgence internationale, et avec cette modélisation.
Il y avait l'armée qui était partie, je crois, hein, c'était parti les militaires hein, au début d'Ebola, non?
Alors je peux vous en parler, ils sont venus, ils sont arrivés en Guinée, l'armée française est arrivée en Guinée, a ouvert en fait son centre de traitement pour soignants 1 an et 10 jours après le début de l'épidémie, et ils sont rentrés de Guinée avant la fin de l'épidémie, pour être là au 14 juillet 2015, où ils ont défilé sur les Champs-Élysées, alors que l'épidémie n'était pas terminée, mais eux, ils avaient fermé le centre de traitement. Et là, on pourra pour reprendre cet exemple-là pour répondre concrètement à votre question sur les différentes significations de l'intervention à l'épidémie. Mais ce que je voulais souligner par rapport à la RDC, c'est qu'évidemment, il y a une construction très différente de l'épidémie d'Ebola en Guinée et en RDC. En Guinée, on avait le sentiment que l'épidémie allait exploser. Il y a eu cette modélisation du CDC, d'un modélisateur du CDC qui disait « Si on ne fait rien, en janvier 2015, il y aura 1,4 million de personnes infectées. » Ce qui évidemment n'est jamais arrivé, mais c'était une modélisation qui partait du principe qu'on ne fasse rien du tout. Alors, au moment où il produit cette modélisation, on est déjà en train de faire des choses et heureusement, tout s'arrête. Ceci dit, à l'époque, je me souviens très bien, c'était novembre 2014, j'expliquais à mes étudiants que, alors que j'étais sur le point de partir en Guinée pour mettre en place l'essai clinique avec les cliniciens, enfin pour participer à la mise en place, j'expliquais à mes étudiants que sur le continent africain, chaque jour, il y a 3000 morts du paludisme. Chaque jour. Et que ça ne suscite pas un appel, une envie d'aller sauver les Africains. Et en termes de mortalité, l'épidémie d'Ebola dans les pays de la Mano River, c'est un peu plus de 11 000 morts en 2 ans. Ce qui est très peu par rapport à 3 000 par jour. Mais ce qui a justifié l'intervention très forte, c'est que c'était la première fois qu'Ebola se développer dans des zones urbanisées avec des circulations, et c'est aussi la première fois que une infirmière espagnole revenait avec Ebola, un Américain, une Écossaise, donc il y avait la peur que qu'Ebola nous touche, très largement alimentée par les films comme les films avec Dustin Hoffman et qui ont construit comme ça un imaginaire de l'épidémie de...
On peut interrompre là, oui,
bien sûr.
D'accord. Mais il y a aussi cette espèce de, quand vous parliez d'histoire, là j'ai vu plusieurs choses sur le fantasme de la peste. Nous on est complètement, comme je ne sais plus qui c'est qui disait, tous que nous sommes aujourd'hui, nous sommes des survivants de la peste, quoi, tous les gens qui sont partis. Et je crois que la peste a marqué justement historiquement, et puis j'étais d'accord avec ce que vous disiez, a beaucoup plus marqué notre culture, parce que c'est vraiment... il y a eu plusieurs choses qu'on retrouve un peu partout, et que c'est, je crois que ça nous a profondément marqué, alors je vais employer le mot, mais pas approprié, dans nos inconscients de la maladie. Quoi.
Alors, chez nous, on pense à la peste, mais si on est un patient africain, l'expérience plus proche, c'est la variole.
Oui.
Et les bien politiques des camps de sauts, et la variole et ou la maladie du sommeil. Et en termes de rapport à l'intervention de santé publique, peut-être vous savez, smallpox, mais aussi des camps de sommeilleux où on enfermait. L'histoire, c'est que Koch est envoyé par l'Allemagne en Afrique de l'Est pour trouver le médicament de la maladie du sommeil. Et il revient en Allemagne et il dit Il n'y a rien qui marche. Mmh. La seule chose qu'on peut faire, c'est enfermer les malades pour éviter que le mal du sommeil se répande. Et c'est ce que va faire l'Allemagne, au Togo, dès 1902. Va mettre en place des camps de sommeilleux. Ces camps de sommeilleux, ils sont fondés sur un modèle que Koch emprunte à l'Afrique australe. Vous savez que l'Afrique australe, c'est le premier lieu où on a mis en place des camps de concentration. Pendant la guerre des Boers, les Anglais ont enfermé les familles africaineurs. Et donc, Koch s'inspire des camps de concentration en disant, mais en fait, il faut enfermer le risque, il faut enfermer les camps de sommeilleux. Mmh. Et au début du XXe, donc, les critiques sur les camps de sommeilleux, et c'est ce qu'on explique dans, la, dans cet article que vous mentionniez, les critiques sur les camps de sommeilleux disent, il y a un problème, on n'a pas de médicaments, ça ne marche pas, et les gens meurent de faim et meurent de froid dans les camps de sommeilleux. Mmh. Et donc, les populations togolaises ne sont pas contentes de l'intervention. Mmh. Mais le même discours pouvait être reproduit mot pour mot, pour discuter de l'expérience des camps de traitement, Ebola, puisqu'effectivement, les gens n'étaient pas soignés. Hein, au début de l'épidémie, on ne fait que leur donner éventuellement la réhydratation, un traitement systématique contre le palud, et c'est tout. Les gens étaient visités 4 fois par jour dans les, par les bonhommes en combinaison. Et donc, l'entrée dans le centre de traitement s'apparente à une entrée en prison, puisqu'on on observait une forme de mortification, c'est-à-dire qu'il y a un marquage sur les corps de votre déshumanisation, du fait que vous entriez dans une zone où vous n'existiez plus comme être humain, et vous étiez vu 4 fois par jour, chaque visite durait 45 minutes, pas de traitement, pas de biochimie, pas d'hydratation, pas d'intraveineuse, et on vous donnait à manger dans un sac plastique, il fallait manger comme ça, même dans le sac plastique, pas d'assiette. Si votre voisin mourait, vous pouviez rester 4 heures avec camarade mort. Si vous vomissiez, vous déféquiez sur votre lit ou sur vous, si vous tombiez de votre lit, vous pouviez attendre 4 heures qu'on vienne vous ramasser, parce que suivant l'heure à laquelle vous tombiez. Donc, et avec une proximité de la mort et une peur terrifiante, puisque vous aviez une tente avec les patients, puis la tente d'à côté c'était la morgue, et on voyait en permanence sortir les gens. Et la déshumanisation, elle s'appliquait jusqu'au traitement des morts, puisque dans les 8 premiers mois de l'épidémie à Guéquédou, où j'ai travaillé, mais ça s'est vérifié dans d'autres centres, pendant les 8 premiers mois, on a enterré les gens sans prendre même soin d'informer les familles, de dire où sont enterrés les gens, comment ils s'appelaient. C'est-à-dire qu'il y a une personne, le frère d'une patiente par exemple, qui était là quand sa soeur est morte, il explique, attendez, je vais chercher une croix en ville et puis je reviens. Et puis quand il revient, sa sœur a été enterrée, et on lui dit, pardon, on a oublié que vous étiez là, on ne sait pas où elle est dans ce cimetière-là. Donc, la mort dans ces populations-là, la mort, c'est pas la fin de la vie. C'est un changement d'état, et vous êtes considéré encore comme un agent avec une capacité à la fois de bienfaisance, mais de nuisance. Et la nuisance, elle intervient si vous n'êtes pas bien traité dans la mort. Si on vous a pas permis de devenir un ancêtre, si on n'a pas fait les rituels. Donc on imagine les tensions que ça crée pour les survivants.
Pour revenir juste sur les camps, faut se rappeler que l'on n'est pas à l'abri. Hein. Je me rappelle au début de l'épidémie de sida en France, il y avait un célèbre homme politique, dont je n'aimerais pas le nom, qui avait dit qu'il fallait mettre les gens dans des camps.
Hein. Dans des camps.
Je ne sais pas si vous vous rappelez. Bon, moi, c'était
à Cuba, c'est ce qui s'est passé.
En Californie aussi. Hein.
Ah oui, je ne sais pas. Mais ils l'ont fait vraiment.
Ils ont proposé.
Ah oui, Monsieur Le Pen, il avait vite été rejeté.
Mais à Cuba, ça a été fait.
Ça a été fait.
Oui, bien sûr. Le camp, c'est la réponse évidente à la gestion du risque. Que ce soit la prison pour les illégalismes ou les centres de traitement pour gérer le risque viral. Et dans les deux cas, les effets supposés de cette mise en camp ne sont pas vérifiés. On sait aujourd'hui que plus on construit de places de prison, il n'y a pas une baisse proportionnelle de la délinquance. Hein, au contraire, la délinquance continue. Plus on met des prisons, plus il y a des délinquants. Et sur les centres de traitement, il reste à démontrer que ces centres de traitement ont été la meilleure réponse. Et même les gens de MSF, après coup, je pense à Calin et Poncin, dans un article dans Social Science Magazine, disent qu'au fond, on n'est pas sûr du tout. Et surtout, c'est que la dictature des épidémiologistes, pour contenir le virus, a empêché la possibilité de faire entendre une voix différente et par exemple de dire les populations elles-mêmes pourraient organiser leur propre quarantaine, ce qui a existé un petit peu en Sierra Leone et à Liberia, mais pas du tout en Guinée. En Guinée, si un village, et c'est arrivé fréquemment en forêt, s'auto-plaçait en quarantaine, au lieu de dire, bon, bah, vous êtes en quarantaine, on vous envoie un médecin, on va regarder s'il y a des gens malades chez vous, et s'il n'y en a pas, on va vous donner de quoi vous protéger au cas où quelqu'un fait une fièvre, et on va vous apporter de la nourriture pour que vous puissiez vous alimenter tout en maintenant cette quarantaine. Au lieu de faire ça, on envoie l'armée pour lever les barrages et empêcher les gens de s'enfermer. Alors qu'aujourd'hui, on sait, et c'est ce que fait par exemple la Lima maintenant en RDC, c'est-à-dire qu'on peut accompagner les populations à faire du one-to-one, c'est-à-dire du soin. On dit, bah, y a quelqu'un à la fièvre chez vous, il y a une seule personne dans votre maison qui s'occupe de lui, qui entre en contact avec lui, et qui prend garde de ne pas le toucher. Et on pourrait faire les premières PCR, c'est-à-dire identifier si oui ou non c'est une fièvre Ebola dans ce contexte-là, et n'emmener dans les centres de traitement que ceux qui sont effectivement malades. Et c'était d'autant plus possible que la qualité des soins dans les centres de traitement n'avait rien à envier que la qualité des soins qu'on pourrait produire dans une famille.
En même temps, tout à l'heure, vous évoquiez une certaine efficacité en disant que les calculs de ce qui aurait pu arriver étaient faits au moment où les choses étaient mises en place et que ça avait quand même été une épidémie.
Oui, mais qu'est-ce qui a été efficace? Oui. Peut-être que les centres de traitement ont une efficacité. Je pense que la peur des centres de santé a eu une très grosse efficacité. Les gens ont cessé de se rendre dans les lieux qui étaient perçus comme contaminants. Mmh. Donc ça a un impact très fort sur l'épidémie. Mmh. Et puis l'épidémie, elle a aussi sa propre vie naturelle. Et donc, plus le virus passe d'hôte en hôte, plus il s'amenuise. Et puis, à un moment donné, il disparaît. C'est ce qui s'est passé dans toutes les épidémies d'Ebola avant la Guinée, avant qu'il y ait eu cette ampleur en Guinée. Les épidémies Ebola au Soudan, en RDC, au Gabon, se sont arrêtées. À chaque fois, on est arrivé après la bataille. Mmh. Et c'est là où l'épidémie d'Ebola en Guinée a été un moment historique. C'est parce qu'elle a été une opportunité extrêmement importante pour... C'est la première fois qu'on avait la possibilité de suivre l'histoire naturelle de l'épidémie en temps réel, d'observer des patients, de voir l'évolution des cas cliniques, de constituer des biobanques pour produire de la recherche. C'est ce qui a permis, au nom de l'urgence, et ce qui a été un registre extrêmement important pour comprendre comment s'est passée l'épidémie, le registre de l'urgence a permis de débloquer des fonds extrêmement importants qu'on a donnés aux entreprises pharmaceutiques pour qu'elles développent des vaccins, dans un temps record.
Alors, ça a permis de débloquer le fast track.
Voilà, c'est ça. Exactement. Tout d'un coup.
Vous savez ce que c'est que fast track là? Non. C'est de permettre pour sortir un médicament, je caricature, hein. Excusez-moi, hein. Il faut à peu près 10 ans et c'est pas possible. Oui. Et tandis que là, ils ont donné l'autorisation au bout d'un an, même si on n'était pas sûr qu'on n'avait pas fait tous les essais. Ils disent de toute façon, on va quand même leur donner ce médicament. Je caricature, hein, je simplifie énormément. Mais au bout d'un an, le médicament pouvait être mis. C'est un peu ça, hein. Oui, pouvait être mis sur le marché et peu importe s'il y avait des effets secondaires ou autre.
Alors non, il n'est pas mis sur le marché, mais on autorise son usage compassionnel.
Voilà.
Et donc, on a testé le favipiravir chez les hommes avant même de savoir quels étaient les effets du favipiravir chez les singes, dans l'usage qui avait été modélisé pour l'Ebola.
Donc, mais maintenant, ça s'est étendu partout, puisqu'on peut l'utiliser.
Alors maintenant,
maintenant, on a le droit d'utiliser certains médicaments. Alors que...
Quand on a épuisé toutes les ressources, et que c'est la seule chose qui potentiellement pourrait être testée, qui pourrait avoir, on espère qu'elle ait une
c'est pas forcément négatif, je suis pas critique.
Oui, non, moi je suis assez critique. Hein. je suis pas un défendeur
du fast track. Je sais pas comment ça se dit en français.
Donc quand il n'y a rien à donner, c'est vrai que c'était mieux que rien. Et par contre, c'est intéressant et c'est un papier que j'ai qui va paraître, qui devait paraître l'année dernière, mais en fait MSF l'a bloqué pour cette histoire. Mais qui va paraître dans un journal, dans un ouvrage au Canada là, dans quelques mois. Sur l'effet de la science sur l'urgence. À partir de décembre 2014, on met en place les essais cliniques dans les centres de traitement. Et là, il se passe quelque chose d'intéressant et qui est un résultat sous-estimé des essais cliniques menés pendant Ebola. Objectivement, les résultats scientifiques des essais cliniques, c'est zéro. Il n'y a aucun essai qui a marché. Ni le plasma, ni ZMAP, ni TKM, ni favipiravir. On a appris beaucoup de choses. On a appris des choses sur l'histoire naturelle, sur le dosage. On sait que le favipiravir n'était pas assez important. On sait, mais ça on s'en doutait, qu'il faudrait sans doute développer des multithérapies. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est le VIH qui est dans les premières réunions sur Ebola, je me souviens, c'était Delfrécy, Jean-François Delfrécy, l'ancien président de l'ANRS, donc grand spécialiste du VIH, qui était à la manœuvre, qui avait été nommé pour organiser la réponse de l'Ebola Task Force française. Et la première chose qu'il a dit aux cliniciens, c'est « Rappelez-vous le VIH, il faut penser tout de suite multithérapie, parce qu'on a perdu beaucoup de temps avec le VIH à travailler sur des monothérapies, il faut tout de suite penser multithérapie. » Donc dès le début, le modèle VIH, avec le fait qu'il faut... Et tout s'est imposé très vite. Et il s'est imposé d'autant plus vite que les personnes qui ont été convoquées pour réfléchir à la mise en place des essais cliniques, c'était des gens qui travaillaient déjà en Afrique, qui travaillaient déjà sur le VIH, et qui plus est, travaillaient déjà ensemble. Puisque quand, pour le favipiravir, c'est Denis Malvy et Xavier Anglaret de Bordeaux, moi j'avais travaillé dans l'essai de Xavier, un essai Temprano, qui s'appelait Temprano, à Paxi, à Abidjan. Donc, il se trouve qu'au moment, en septembre, nous, on organisait à l'ENS de Lyon un séminaire sur la production des connaissances. On avait invité, par hasard, des gens qui se retrouvaient dans Ebola, hein, c'est Lati, Malvi, Anglaret. Et donc, on s'est dit, mais qu'est-ce que vous faites pour Ebola? Eux, ils étaient en train d'écrire leur protocole clinique. Donc, on s'est mis avec eux. Donc, c'est les gens qui se connaissaient déjà qui sont allés faire un peu la même chose, enfin, les choses qu'ils savaient déjà faire. Ce qui, donc, là, pose vraiment une question sur... quelle est la capacité de nouveauté de gens qui reproduisent la même chose en changeant un peu de champ. Et
peut-être Thomas, en tant qu'infectiologue à la Croix-Rousse, tout ce débat autour des traitements, tu l'as perçu ou c'était un peu loin?
On l'a perçu parce qu'on l'a suivi. Mais on l'a suivi à travers le regard de publications ou des propositions de la NRS sur les thérapeutiques et les exigences locales d'avoir à disposition certains médicaments en cas de survenue d'un patient. Ce qu'ont fait les collègues à Bégin avec des traitements. Donc il y avait des obligations d'essayer d'être au courant de comment on pourrait se procurer ces médicaments en ATU ou en compassionnel. Si on avait un cas. Donc oui, on a suivi, on suit encore, parce qu'il y a encore de la littérature qui sort là-dessus. Il y a des médicaments à disposition. Le regard, je suis très attentif à tout ce que vous donnez. Moi, j'ai simplement un regard clinique local. Hein. Mon exigence était très précise locale, mais cette exigence de l'isolement et de la réponse par le confinement, et quelque chose d'ancestral, en fait, face à la maladie. Et à Olympe, il y avait déjà des salles d'isolement, les premiers à le faire il y a très longtemps. Donc c'est très difficile, en fait, en vous écoutant Et c'est peut-être un regard trop pragmatique, en fait, et trop exigeant. Il y a la lecture du terrain, il y a ce qui se passe, et il y a la confrontation à l'autre possible, en fait. Et c'est ce que vous évoquez avec le... one-to-one, la possibilité de la gestion au plus près, il faut se rendre compte que ces gestions-là, elles sont extrêmement exigeantes, en fait. D'amener une PCR, vous l'évoquez comme ça, on fait une PCR pour voir ce que c'est, ça met quand même... c'est du bazar, c'est pas simple, j'ai l'impression que vous l'avez vécu, hein, vous savez. Donc je ne me permettrai pas de le raconter, mais quel est, finalement, après tout ce regard-là, ce regard... critique qu'on a sur la genèse, on a parlé de Porte Farmer, mais on peut parler de la genèse du VIH, de l'explosion via la médecine coloniale du VIH dans les années 30 en Afrique, hein, parce que la genèse du VIH et l'explosion de la pandémie, c'est de l'acte thérapeutique. En fait.
J'ai prévu de vous parler de Jacques Pépin.
Voilà, Jacques Pépin, qui est extraordinaire, ce Canadien là, qui est la base, c'est super, si on en parle après, c'est passionnant. Mais on est sur des temporalités différentes. On est sur... moi, je suis convaincu que l'ensemble de l'effort qui a été mis, effectivement, un effort de protectionnisme et un effort de pouvoir, dans le sens qu'on va pouvoir mettre en réalité et enfin mettre en pratique des acquis et des possibles, c'est-à-dire que nous, médecins français, on a un terrain de jeu, on peut y aller, on va pouvoir faire quelque chose et l'éprouver, et nous éprouver finalement dans notre pouvoir médical et notre connaissance médicale. Puis à côté de ça, il y a l'exigence qu'on nous réclame de se protéger, qui va très loin, hein, c'est-à-dire que on transforme le service d'infectieux actuellement en réponse aux risques émergents et avec la capacité d'isoler tout risque et de protéger finalement la population. Donc il y a un véritable appui politique, parce que ça vient pas de nous, globalement. Nous, on n'est que les effecteurs, même si on voudrait calmer les choses. Et la réponse locale a été plutôt de calmer les ardeurs et les craintes, de manière à permettre aux professionnels de santé d'être acteurs et de pouvoir soigner. Mais globalement, face à ça, à ces exigences-là, si vous allez un peu plus loin sur ce phénomène-là, quel est le... finalement, avec cette expérience très rapide de l'Ebola, quelle est la proposition, quelle est... si on peut aller plus loin sur cette capacité de lecture, je pense que vous le ferez après peut-être. Mais...
La proposition, c'est de revenir au sol et de repenser en termes ces questions dans la longue durée. Les premières descriptions de médecins coloniaux en Guinée, donc fin du 19e, ils décrivent la gestion de la variole dans les villages guinéens. Et en variole, à l'époque, pour la variole, dans les villages guinéens, il y a deux pratiques. D'abord la vaccine, l'ancêtre de la vaccination. Donc on observe quelque chose qui est très ancien, hein, qui a été fait par les Chinois, qui a été fait aussi en Inde, mais ce qui est venu en France via la cour de la Grande Porte, donc la Turquie, où les aristocrates français ont vu les princes à la cour de la Grande Porte se faire inoculer la variole. En Afrique, on faisait ça, on faisait l'inoculation de la variole. Donc, premier constat, la question de la protection et de la reconnaissance d'un risque et de la nécessité de se vacciner ou de la possibilité d'une forme de vaccination, elle n'est pas étrangère en Guinée. Deuxième observation que font les médecins coloniaux, c'est que dans d'autres villages, on ne fait pas la variolisation, mais on crée on fait la quarantaine. C'est-à-dire que dans certains villages, quand il y a la variole, on crée des quartiers de quarantaine, où les villages vont isoler les variolés. Donc, deuxième constat, la compréhension du mécanisme de la possibilité d'une transmission d'un agent pathogène, elle est présente avant l'arrivée de la médecine coloniale et avant l'intervention d'Ebola. Ce qui change les termes du débat, la question, c'est pas est-ce que les gens savent qu'il faut se protéger ou est-ce que les gens savent qu'il faut s'isoler. Mais ça pose la question de qui est légitime pour imposer l'isolation. Donc ma proposition, c'est pas du tout de remettre en cause la nécessité de l'isolation, mais de penser les modalités de la remise en place. Et là, ça nous renvoie à la question postcoloniale, qui est un virus n'existe pas tout seul, il lui faut un contexte social et historique qui va permettre son évolution. De même, une réponse efficace à l'épidémie d'Ebola, elle suppose une prise en compte des contextes politiques locaux et de réfléchir à qui sont les agents, les acteurs légitimes pour mettre en place quel type de pratique. Les anthropologues ont été appelés pour réfléchir à
ça. C'est quoi ça ? Sur les défunts
en particulier. Oui. Moi j'étais là dès le début. Ouais. Il a fallu 8 mois, alors j'étais là dès le début de l'épidémie, enfin dès le début, hein, pas dès le début, parce que le début c'est mars 2014, ça devient un vrai problème international en août, et moi j'arrive en novembre à Kékédou. De novembre 2014 jusqu'à la fin de l'épidémie, je pleure, entre guillemets, pour qu'on mette au moins un numéro sur les tombes pour pouvoir identifier, qu'on fasse attention si c'est un chrétien ou un musulman, pour qu'on l'oriente du bon côté, le minimum légal, le minimum même défini par la Croix-Rouge internationale en zone de conflit. Quoi. Il a fallu 8 mois pour que ça change.
Mais je suis d'accord avec ça, mais là...
Parce qu'en fait, les anthropologues ont été d'abord appelés pour faire 2 choses. 1, de la communication, pour traduire aux sauvages qu'il fallait bien se soigner, qu'il fallait pour dire aux gens, venez bien vous soigner dans leur langue, dans les centres de traitement où ils n'étaient pas soignés. Donc, pour produire des discours qui étaient en fait contre, qui étaient paradoxaux et qui ne prenaient pas. Parce que les gens voyaient les centres de traitement comme des espaces clos. Il se passait des choses à l'intérieur qu'on ne comprenait pas. Les gens rentraient malades, ils ressortaient, on ne savait pas où ils allaient. La seule chose qu'on voyait, c'est de la fumée, parce qu'il y avait des incinérateurs dans les centres, puisque tout ce qui rentre reste à l'intérieur. Et la seule chose qu'éventuellement on leur donnait sur la fin, c'était une photo du défunt, prise juste la tête avec qui dépassait d'un sac plastique, qui était censé rassurer les gens pour leur dire « Vous voyez bien qu'on n'est pas en train de faire des prélèvements d'organes, regardez, c'est la photo de votre parent. » Mais en fait, bon, les centres de traitement et leurs modalités de fonctionnement ont été en fait de puissantes machines de l'entretien de la peur et de la violence. En fait. Donc les anthropologues ont été là pour communiquer là-dessus, pour expliquer aux sauvages qu'il fallait croire ce qui, objectivement, n'était pas du tout concevable. Et de l'autre, ils étaient là aussi pour faire la police. Par exemple, quand vous avez une épidémie comme ça, je ne vous l'explique pas, vous le savez, si vous avez un cas positif, on prend le cas positif, on le met dans le centre de traitement, et on va suivre pendant 21 jours la durée d'incubation d'Ebola, tous les contacts de cette personne. Donc on fait ce qu'on appelle le suivi de contact. Mais évidemment, dans le contexte, il faut imaginer hein, ce qui se passait. Vous étiez malade, la Croix-Rouge arrivait, Manu Militari, avec les combinaisons, on asperge la maison, on vous prend et on vous emmène et vous disparaissez, et votre famille n'est au courant de rien. Quoi. On n'informe pas. Donc beaucoup de suivi de contact, beaucoup de contacts disparaissaient dans la nature. Et là, les anthropologues, enfin ceux qui étaient nommés anthropologues, ont fait du suivi de contact. Parce qu'ils connaissaient les communautés, ils sont allés chercher ceux qui se cachaient. Donc ils faisaient un travail de police. Alors, moi et d'autres, en général, des anthropologues qui ont le moyen de faire ça, c'est-à-dire des anthropologues qui n'étaient pas payés pour faire ça. Nous, on est académiques, donc on faisait notre travail de recherche. On accompagnait en donnant des conseils sur les enjeux sociopolitiques de la mise en place des essais cliniques, mais on faisait de la recherche. Les anthropologues dont on a vanté les mérites dans la riposte, c'est les anthropologues, c'est les gens qui étaient, peut-être qu'il y avait des masters, une licence de sciences sociales en Guinée ou au Sénégal, et qui étaient embauchés pour faire ce travail qui est un dirty work, qui n'est pas un travail de sciences sociales. Mais les sciences sociales ont été convoquées d'abord pour faire ça, ce qui n'est pas leur mission. Là où les sciences sociales ont une vraie pertinence, c'est sur la réflexion sur ce dont on parlait tout à l'heure, sur qu'est-ce qu'était l'expérience de la riposte, qu'est-ce qu'était que la science en urgence, ou qu'est-ce que c'est que le mouvement de santé globale qui sous-tend tout ce grand barnum, qu'est-ce que ça veut dire. Et c'est en réfléchissant sur ces questions-là qu'on peut être amené à questionner la nature du dispositif et à essayer de réfléchir sur d'autres formulations. À l'époque du début de la mise en place de la riposte, les sciences sociales, entre guillemets, sérieuses, j'ai envie de dire, critiques en tout cas, ont été les premières tout de suite à dire « mais il faut plutôt aider les gens à faire l'isolation à l'échelle individuelle ». Ce que l'armée française a fait d'ailleurs dans les centres de traitement pour soignants, puisque dans les centres de traitement pour soignants, c'était des chambres individuelles.
Enfin, il y avait un drap séparant, ouais.
Non, c'était mieux que ça.
Moi, je suis allé, j'ai eu même.
Et
c'était pas.
Ma postdoc.
C'était pas des draps entre des sortes de niches qu'ils avaient fait, blanches là.
Alors, c'était pas des draps, c'était des cloisons en plastique.
Des cloisons en plastique.
Suspendues.
Voilà, c'est ça, suspendues. C'est pour ça que j'ai donné l'impression de draps.
Et donc, c'était des cloisons en plastique avec une vidéosurveillance et avec. Tout ce qu'il fallait pour la biochimie, l'hydratation, enfin il y avait le total. Toutes les capacités de réanimation qui sont extrêmement vitales, c'est la seule réponse aujourd'hui la plus efficace, c'est celle-là, pour être là, étaient disponibles. Alors dans les centres de traitement, évidemment, vous n'aviez pas ça. J'insisterai pas sur la dimension, sur l'impact de la science, mais en fait, ce qu'a fait la science dans les essais cliniques, c'est pas changer les outcomes, puisque je crois qu'avant l'épidémie, dans la comparaison historique, avant l'intervention, après l'intervention, il y avait 52% de décès. Au début, c'était 78, puis après 52. Avec l'épidémie, avec la... Non, pardon, c'est 58 avant l'intervention. Et après la mise en place des essais cliniques, c'est descendu à 52, ce qui statistiquement n'est pas du tout significatif. Donc il n'y a pas eu de différence dans les résultats. Par contre, dans les formes d'engagement dans le soin, ça a tout changé. Parce qu'on a doublé le nombre des équipes, pas pour sauver, pas pour être plus gentil avec les gens, mais parce que quand vous faites un essai clinique, vous savez ce que c'est dans un centre, j'imagine qu'il y en a dans votre centre hospitalier, ben quand on fait un essai clinique, on écrit des SOP, c'est-à-dire des standard procedures, donc des manières de faire qui doivent être les mêmes pour tous. Donc on homogénéise, on standardise et on note un essai clinique, c'est un processus d'inscription. On doit les données de l'essai clinique, c'est ce qui est écrit. Donc on note tout et ça du coup ça change complètement les formes d'engagement dans le soin. Puisque pour produire des bonnes données, il faut faire du bon soin. Et ça a changé complètement l'expérience des soignants qui avaient l'impression avant de gérer ce qu'ils appelaient par exemple un koya, des macabées. C'est comme ça que les soignants appelaient les patients qui entraient dans les centres de traitement des macabées. Tout d'un coup, ils se sont dit oh, ça y est, on les sauve, on a un produit, on a des moyens, on évalue l'électrolytique, le comment on appelle ça,
l'ionisation, le ionogramme,
voilà, enfin on regarde l'hydratation, on fait de la biochimie, on répond aux questions, si on trouve un déséquilibre on va tenter de le rétablir, on a introduit la morphine alors qu'avant le traitement de la douleur c'était le tramadol. Donc tout d'un coup les gens ont eu le sentiment de faire quelque chose et de pouvoir de nouveau considérer les patients comme des êtres humains, enfin, des gens avec qui on pouvait engager et pour lesquels il y avait un espoir.
Du coup, on tombait à 20%, c'est ça, de décès dans cette...
Le nombre de décès est resté le même. Mais les qualités du soin, les qualités du soin sont très différentes.
C'est-à-dire dans un espace de réanimation, enfin, comme on est en France, il me semble que je l'ai lu dans votre article, le taux de mortalité tombait à 20%.
Ah, en France, vous voulez dire ?
Oui, oui, dans un...
Oui, en France, oui. Ouais. En France, c'est rien à voir. Mais en Guinée, le taux de mortalité est resté le même. Par contre, à partir du moment où les essais cliniques ont été introduits, les formes d'engagement ont permis qu'on a de nouveau réintroduit dans une communauté du soin des patients qui, par leur entrée dans les centres de traitement, en étaient exclus, en fait. Et on leur a permis de mourir dignement, en fait. Donc ça, ça a été vraiment un point très important de la mise en place des essais cliniques, qui a coïncidé avec aussi une prise de conscience et des débats très forts au sein de MSF à partir de décembre 2014, notamment de la part d'MSF France, qui disait « c'est pas possible, on rate notre mission, on est plus préoccupé par protéger nos travailleurs que par soigner des gens, alors qu'on est supposé partir là-bas pour soigner les gens ». Donc, et toute cette réflexion, elle est possible parce qu'il y a une ethnographie. Une ethnographie qui n'est pas au service de la riposte, mais qui est soucieuse de la pertinence des données qu'elle produit pour réfléchir sur la riposte, mais qui a une vraie capacité à développer une vraie approche, un vrai questionnement ethnographique. Et c'est là où l'anthropologie est la plus utile, beaucoup plus que comme inspecteur de police cherchant les perdus. Et ce que permet aussi l'anthropologie, et notamment par la discussion avec la littérature, et on parlait de Jacques Pépin tout à l'heure, c'est que très vite, au début de l'épidémie, les gens ont commencé à vouloir expliquer l'origine d'Ebola. En disant, oui, alors c'est ça en fait, c'est un enfant à Meliandou dans un village qui a mangé un fruit tombé d'un arbre qui avait été infecté par une chauve-souris. Mais tout ça, c'est du...
Storytelling.
Voilà, c'est de la fantasy, c'est de la belle histoire. Quand on sait que pour le VIH, ça n'est qu'après 30 ans de recherche qu'on a, et encore Jacques Pépin, c'est passionnant son analyse, mais elle est aussi critiquée. Hein. Il y a l'hypothèse du chasseur, machin, bon, c'est très critiqué. Mais encore, voilà, il y a un vrai travail de longue haleine qui propose une analyse assez. Qui semble assez pertinente, peut-être pas sur l'origine même de la zoonose, c'est-à-dire du passage de la maladie de l'animal à l'homme, mais en tout cas sur les conditions structurelles qui fabriquent l'épidémie avec le croisement de l'expérience coloniale, de la création de voies de transport qui font que le virus quitte la profonde forêt camerounaise et vient jusqu'à Brazzaville, que là, les politiques de ségrégation et donc de prostitution favorise la transmission du VIH, plus le traitement des maladies vénériennes avec des seringues utilisées pour plusieurs personnes favorise la reproduction de l'épidémie et crée la possibilité d'une épidémie qui deviendra une épidémie mondiale. Pour arriver à ces analyses-là, il faut 30 ans. Il y a des gens qui, en 6 mois d'épidémie, ils publiaient déjà dans le Lancet des lettres expliquant l'origine d'Ebola. Donc là, nous, on a un peu de
recherche. Je le lirai pas comme ça. C'est-à-dire que on sait avec humilité très bien que ce virus est arrivé. Et ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi il est arrivé avec une telle ampleur. Et je pense que c'est là où votre regard est fondamental sur ce que nous, on a appelé... La déstabilisation politique du pays, parce qu'il y a ça aussi, il y a l'organisation de soins qui est extrêmement fragile, sur la perte de confiance des populations face à l'autorité, qu'elle soit sanitaire ou politique, et ça c'est un problème local, entre eux, dans leur propre dimension politique et organisationnelle, et puis sur les voies de communication, parce que cette notion du train de Pointe-Noire qui arrive jusqu'à Pointe-Noire en passant par Brazza, et qui va faire ses 17 000 km, enfin ses 17 000 traverses, et apporter le VIH, c'est la même chose avec cette route qu'on avait et qui a traversé la Guinée jusqu'à Conakry. Donc ce phénomène quand même là, il se lie. Je pense qu'on est tout à fait d'accord pour dire que peut-être il y a déjà eu de l'Ebola, même si c'est quand même bien survécu depuis 1976, dans ces forêts-là, mais qui sont restés dans un village où il y a eu des décès, et ça s'est arrêté. Et c'est tout à fait possible. En 1976, les gens avaient déjà eu l'idée de mettre les morts d'un côté, puis les vivants de l'autre côté. Donc... moi, je le vois... Parce que comme vous le racontez de manière un peu négative, en disant « oui, alors que ça existait déjà bah, ». C'est pas grave, c'est celle-ci qui est importante, parce que finalement, elle a fait quand même 11 000 morts. Et il s'est passé quelque chose. Donc c'est ça qu'il faut expliquer. Pourquoi il y en a eu 11 000 cette fois-là, alors que les fois d'avant, il y en a eu 22. Et...
On est d'accord. Cependant, je pense qu'il est important de déconstruire les mythes qui visent à raconter des belles histoires, comme celle de Mélie Andou. Pourquoi ? Parce que, par exemple, le discours consiste à dire l'origine de l'épidémie, c'est la déforestation et c'est la pression mise sur les forêts. Or, ceux qui connaissent l'histoire de l'environnement en Guinée savent que la forêt a grandi, que la forêt n'a pas diminué, que depuis 20 ans, les gens ont quitté la forêt parce que, à cause de la rébellion, et que si on prend les photos aériennes des années 50, il y a beaucoup plus de forêts. Il y avait moins de forêts dans les années 50 qu'aujourd'hui. Donc, il est important de questionner et de mettre en cause des récits trop faciles, justement pour faire ce que vous dites et pour rappeler qu'effectivement, si l'épidémie explose, c'est à cause en grande partie des politiques d'ajustement structurel des années 80 qui fabriquent la préparation à l'épidémie. La vraie préparation à l'épidémie, c'est ça. C'est dans les années 80, on impose aux États africains de diminuer drastiquement la proportion de les investissements de l'État dans l'éducation et dans la santé. Ce qui fait que les centres de santé où j'ai travaillé en forêt pendant l'épidémie, il y avait des murs mais pas de soignants. Ou il y avait un soignant mais qui n'était pas salarié, qui vivait en vendant des médicaments, qui jusqu'à la fin de l'épidémie n'a pas eu d'outils de protection contre l'épidémie, et dont on peut se poser des questions sur le rapport qu'il entretient avec une population quand on sait qu'il se paye sur la bête en leur vendant des médicaments. On sait aussi que on a beaucoup mis en cause l'OMS pour son impuissance et sur son retard, qui est une réalité. Hein. Il y a eu effectivement un retard de reconnaissance de l'épidémie, mais qui était autant le fait de l'OMS que des pressions des États concernés, qu'on avait vu d'ailleurs aussi pendant l'épidémie de VIH, où les États ont mis du temps, quand bien même ils prenaient en charge les premiers patients au Congo du VIH, ces cas n'étaient pas déclarés à l'OMS parce qu'il y avait... une tension entre reconnaître une maladie et les enjeux politiques que la reconnaissance de la maladie officielle pouvait avoir, mais ça n'avait pas directement de rapport avec la capacité ou la volonté de prendre en charge les patients. Donc le retard de la reconnaissance d'Ebola, c'est aussi des enjeux politiques pour les États. On comprend bien leur raison, puisque dès que ça a été officialisé, les compagnies aériennes de certains pays ont cessé de venir, et il y a eu fermeture des frontières avec un impact économique très fort. Mais aussi, on doit aussi, par exemple, reconnaître que l'impuissance de l'OMS, c'est aussi l'absence de financement de l'OMS. En 2015, j'avais noté ça pour vous exprès, 2015, le budget total de l'ensemble des sections de MSF, c'était 1 443 milliards d'euros de recettes. Si on prend toutes les sections internationales de MSF, tous ensemble, c'est 1 443 milliards de recettes.
Ça fait 10 puissance
en 2015. 6. L'OMS, puissance 3. L'OMS en 2015, le budget de l'OMS, 450 millions d'euros. Et l'OMS il ne fonctionne qu'avec les dotations des États. Or, les États ne dotent pas l'OMS. Donc, si l'OMS, même si l'OMS veut intervenir, l'OMS n'a pas les moyens, n'a pas la force de frappe d'MSF pris dans son ensemble. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est-à-dire que ça permet de réfléchir sur c'est quoi la santé globale aujourd'hui. La santé globale, pourquoi on fait des vaccins? Qui est derrière la politique de vaccins? C'est Gavi. Et quelles sont les logiques de Gavi? C'est des logiques qui sont très
Gavi,
sensibles.
C'est qui, Gavi?
Global Alliance for Vaccine Initiative, qui est une coalition d'acteurs qui sont intéressés par le vaccin, mais qui sont menés très largement par la fondation, financés très largement par la fondation Bill Gates. Et veut dire que les politiques de production de vaccins sont en fait très largement le résultat des politiques définies par Bill Gates. Or, ces politiques de production de vaccins, elles sont aussi le produit d'une histoire qui est l'histoire de la santé internationale du point de vue des États-Unis. Vous savez que l'origine de la santé internationale, c'est aux États-Unis en tout cas, parce que on parlait tout à l'heure des premières expériences de confinement, l'Empire ottoman a mis en place les premiers confinements au 19e siècle. Dans une traduction ottomane de l'émergence de réflexion santé globale sur le parcours des pèlerins à la Mecque pour lutter contre le choléra. Parce qu'on savait que tous les Indiens ils venaient à la Mecque et plat, il y avait à chaque fois une épidémie de choléra. Donc c'est l'Empire ottoman je vous renvoie aux travaux de Sylvia Cifolo qu'il faudra inviter ici, elle est chercheure CNRS, elle est à Lyon, qui a travaillé là-dessus sur et elle montre des photos qui sont saisissantes du 19e où on voit des lazarets, enfin des sortes de lazarets mis en place par l'Empire ottoman pour mettre en quarantaine ceux qui arrivent d'Inde avant de les laisser arriver jusqu'à la Mecque. Donc il y a cette histoire-là qui est une histoire orientale qui est plutôt méconnue chez nous, mais l'histoire occidentale c'est la Fondation Rockefeller qui en 1913 Rockefeller s'est dit j'ai gagné beaucoup d'argent avec mon caoutchouc, il faut quand même que je fasse quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait? Première action de la Fondation Rockefeller, c'est fièvre jaune et palu à Cuba et à Panama. Panama parce que c'est un chantier qui revient aux États-Unis après l'abandon des Français. Donc il faut protéger les travailleurs qui vont finir la construction de Panama. Cuba parce que Cuba est proche des États-Unis et il y a un risque que le palu ou la fièvre jaune viennent aux États-Unis. Et donc c'est des logiques hyper technologiques, des utopies en fait technologiques fondées sur des approches monopathologiques où on dit on cible une maladie et on l'éradique et après on prendra une autre. Et en fait cette façon de penser l'intervention en santé globale, elle est à l'origine même de l'action de Rockefeller et elle est au cœur aussi de la façon dont aujourd'hui la santé globale est pensée, avec des mouvements de balancier, par exemple, on pense tous à Alma-Ata, j'imagine, mais Alma-Ata, c'est une toute petite parenthèse dans l'histoire de l'OMS. Alma-Ata, vous savez, c'est la politique, le fait de dire il faut s'appuyer sur les forces locales pour produire la santé et faire les soins de santé primaire. Et donc, offrir un soin basique à la majorité en s'appuyant sur les capacités locales plutôt que d'attendre le grand soir où il y aura 10 médecins par village. Ce mouvement de balancier, on l'observe dans l'histoire de la santé globale. Je vous renvoie à l'ouvrage paru en 2016 de Randall Packard qui s'appelle The History of Global Health, qui fait très bien le récit de cette histoire-là. Donc ça se traduit comment? Ça se traduit par des programmes verticaux, où finalement, au lieu de dire pour que les gens soient en bonne santé, il faut qu'il y ait un centre de santé dans tous les villages avec un infirmier à peu près formé, eh bien non, on va faire des programmes verticaux. Alors il y a le programme PALU, le programme vaccination contre la rougeole, qui fonctionne de manière autonome et qui fonctionne dans des déserts sanitaires en fait. Il y a des gens qui ont formé, qui ont des formations. Le VIH, c'est un super exemple pour ça. Hein, et Ebola, c'est en train de devenir la même chose.
Toute la problématique est l'argent. Toute la problématique, l'autorité et l'argent. C'est le bailleur.
Oui, et tout ça repose aussi sur la nécessité de pouvoir rendre des comptes de son action.
Au bailleur.
Et au bailleur. Et du coup, si vous faites...
Le VIH en Afrique, c'est ça. C'est, on met du Bactrim et on s'excite à mettre du Bactrim, mais parce qu'il faut prendre le registre pour montrer au bailleur qu'on a utilisé le Bactrim.
Voilà, et qu'on a donné tant de doses. C'est ça. Et donc, et ce chiffrage permet de justifier l'investissement. Alors que si vous dites, je mets des infirmiers partout et c'est promis, ils vont prendre en charge les petites fièvres et les petits bobos du quotidien, ça n'est pas, ça n'a pas de réalité. Quoi. Et donc, ça s'ajoute une autre dimension qu'on doit discuter, décortiquer, c'est la double phase de la santé globale. C'est-à-dire que dans la version positive, c'est... La santé globale, c'est la reconnaissance du fait qu'on ne peut pas, nous, dans notre richesse, laisser mourir ceux d'à côté. Donc on doit penser leur risque, on doit intervenir aussi à côté, on ne peut pas accepter cette situation. Et la version plus noire, entre guillemets, c'est c'est une question de sécurité, c'est dans notre intérêt de les laisser, d'aller les soigner sur place pour pas qu'ils viennent chez nous. Et en fait, ce double mouvement de sécurité et humanitaire vont de pair, ils sont indissociables les uns des autres. Et ça fabrique complètement la réponse qui est faite aux épidémies. Et par exemple, je vous expliquais tout à l'heure que j'avais travaillé en prison. En prison, si vous allez dans une prison africaine, les trois premières pathologies ou problèmes que vont signaler les gens qui sont détenus, en termes de santé, c'est 1. La malnutrition, 2. Les maladies du péril fécal, et 3. Les dermatoses. C'est ça qu'ils vivent tous les jours. Il y a zéro programme international qui va traiter ces questions-là. On dit la malnutrition, c'est pour les États, ils n'ont qu'à nourrir leurs détenus, et le péril fécal ou la dermatose, c'est des questions qui sont pas si importantes que ça, parce qu'en fait, ça déborde pas. Alors que dans toutes les prisons, vous avez des programmes tuberculose et VIH, qui sont des problèmes légitimes, qui sont des vraies questions, mais qui sont surtout des menaces en termes de production de tuberculose multirésistante, par exemple, ou des poches. Les détenus font partie de ce qu'on appelle les populations clés, c'est-à-dire que les populations pour lesquelles l'épidémie de VIH continue de se reproduire de façon importante, avec les populations homosexuelles, prostituées et les mères séropositifs qui ont des enfants et qui transmettent de façon verticale le VIH. Donc on voit bien que la façon dont on construit les enjeux de santé publique et les questions à traiter ne sont pas simplement des questions qui reposent sur une compassion qui caractériserait les acteurs. Et il y a évidemment un contexte politique favorable qui est... Alors, tout à l'heure vous disiez... c'est leur pays, c'est leur problème, c'est leur histoire. Alors, c'est effectivement des questions qui sont
relatives. Sur lesquelles on est acteur. Voilà, je ne permettrai pas de. Je ne vais pas laisser finir.
C'est ce que j'allais dire. C'est que, effectivement, c'est des histoires, des trajectoires nationales. Mais, par exemple, on peut, si on pense à la façon dont la Guinée a réagi à l'épidémie. Alpha Condé qui arrive au pouvoir en Guinée après avoir été exilé en France, qui est un grand ami de la France. Il a passé toute son enfance en France, il a travaillé, alors on l'appelle professeur parce qu'il aurait été, il a été peut-être chargé de cours à la Sorbonne, mais il n'a jamais été prof de fac. Donc, il est c'est un ami des socialistes français, un grand ami de Bernard Kouchner. Il a même donné à Bernard Kouchner une maison, une villa à Conakry, qui est devenue ensuite une clinique, qui porte le nom Bernard Kouchner. Et d'où, je ne sais pas si vous avez entendu ce discours-là, mais des populations guinéennes disaient, ben oui, on sait pourquoi il y a Ebola en Guinée. C'est parce que les élections approchaient, la population guinéenne dans son ensemble est assez mécontente d'Alpha Condé, du président Alpha Condé. L'épidémie s'est déclarée en forêt, qui se trouve être le fief des opposants d'Alpha Condé. Donc les gens ont dit, c'est simple, Alpha Condé, il a appelé son ami Bernard Kouchner, il lui a dit, Bernard, il faut que tu m'envoies un virus pour tuer mes opposants politiques. Comme Bernard Kouchner est évidemment associé à MSF historiquement, les gens ont pensé que MSF a obéi aux ordres de Bernard Kouchner et a envoyé un virus pour tuer les gens. Alpha Condé a eu un mot malheureux au début de l'épidémie. Il a dit l'épidémie Ebola est une opportunité pour la Guinée. Ce qui est vrai. Avant l'épidémie Ebola, je parle ici, combien parmi vous connaissez vraiment la Guinée ? Pas grand monde. Et en fait, la Guinée n'existait pas sur la carte de la coopération internationale, pas beaucoup. Aujourd'hui, la Guinée est inondée d'ONG qui font de la surveillance, de l'hygiène hospitalière, Expertise France et l'hygiène hospitalière, de la surveillance, du soin, le suivi des surveillants. Pasteur est revenu en Guinée. Ils sont en train de construire un centre à Conakry. L'INSERM est en Guinée et mène des essais cliniques. Le NIH, le CDC, enfin, tout le monde est là. Donc ça a été vraiment une opportunité pour la Guinée. Mais les Guinéens ont compris, c'est une opportunité pour moi, Alpha Condé, qui fait venir mes amis, qui suis le bras armé de la France, et qui d'ailleurs, dès sa nomination, a vendu, entre guillemets, la Guinée à la France. Vous êtes peut-être au courant que Bolloré est en ce moment à quelques soucis avec la justice. Parmi ces soucis, il y a eu le fait que Bolloré a financé la campagne d'Alpha Condé, et le jour où Alpha Condé a été élu président, il a donné le port à Bolloré. Donc, toutes les populations guinéennes qui ne sont pas forcément allées à l'école, elles ont une très bonne connaissance et conscience de ces logiques postcoloniales, de ces liens très forts entre des industriels, des politiques français et le pouvoir guinéen. Et du coup, pour eux, il n'y a aucune raison de distinguer l'activité de Bolloré de celle de MSF. Avec tout le respect que je dois pour MSF et la capacité extraordinaire qu'ils ont eu à projeter, c'est une machine de guerre, ils sont hallucinants. Je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur MSF, mais s'il y a une chose qu'on doit leur reconnaître, c'est leur capacité d'action, et que s'ils n'avaient pas été là, autant on peut pas garantir que les centres de traitement ont été qui ont été 100% efficaces, autant si personne n'avait été là, on ne sait pas ce qui se serait passé. Mais en tout cas, on doit aussi comprendre que pour les populations, l'action de l'humanitaire qui vient sauver le monde et sauver les populations dans la forêt, elle n'est pas a priori bienvenue, ou elle n'est pas perçue a priori comme étant simplement un geste de compassion et d'humanité. Et ce qui est très compliqué pour les humanitaires de se penser comme ça, d'imaginer, alors qu'ils viennent, ils vivent, et pour beaucoup c'était assez drôle d'observer ça. Ils sont partis sauver le monde, enfin, c'était la grande aventure. Pour beaucoup, j'ai rencontré des gens qui disaient oh, moi j'avais toujours voulu faire de l'humanitaire, ça y est, j'y suis, j'espère que ça va changer ma carrière, je vais devenir une. Ils se vivaient, et de fait, c'était une aventure. Même pour moi, le fait d'arriver à Conakry, monter dans un avion, un petit avion qui roule sur des pistes en terre, et on vous met un masque, tout le monde est là, tremble, on dit à l'idée d'être infecté, d'arriver dans une zone où il y aurait du virus partout, mettre sa vie en danger pour faire ça, c'était assez étonnant. Enfin, très vite, on tombe, là, c'est un peu comme l'altérité. Très vite, on se rend compte, bah oui, les Guinéens, ils vivent là-dedans. Et que tout le monde n'est pas mort d'Ebola, et beaucoup de gens ont continué leur vie et n'ont fait que subir l'intervention comme une violence plus que comme une réponse humanitaire à un enjeu sanitaire.
On va arriver au terme de la rencontre. Est-ce que moi, ce que j'entends aussi, alors pour être un peu trivial et brutal, c'est est-ce qu'on reste pas dans cette idée finalement que l'indigène ou le sauvage reste pas profondément quelqu'un qui est incapable de penser les choses, et donc qui n'est pas un interlocuteur, et qui donc on se met jamais dans une situation vraiment d'organisation politique, et du coup on n'est jamais dans la politique, et ce que dit Hannah Arendt, c'est qu'on ne fait que construire le désert finalement, à pas donner la parole à l'autre comme un égal finalement avec qui on pourrait penser les choses. Enfin, j'ai l'impression qu'on en est toujours là en fait.
Oui, alors ce qui était
avec l'Africain.
Oui, non, c'est. Je pense que la référence à Hannah Arendt, elle est hyper pertinente, et même aussi pour penser le centre de traitement comme un camp, et l'expérience de déshumanisation et la non reconnaissance de l'autre comme un autre soi-même aussi. Et du coup, je pense que l'intérêt d'une anthropologie ou d'une science sociale critique dans ces contextes-là, c'est d'inviter les opérateurs à mieux écouter, à écouter les populations, à reconnaître leur expérience, non pas dans une perspective qui serait naïve, qui consisterait à dire ils savent, ils ont leur connaissance locale, il faut juste les laisser faire. Mais si on veut répondre avec, si on veut faire de la surveillance, si on veut faire de la preparedness, qui est le leitmotiv aujourd'hui de la santé mondiale, c'est-à-dire de se préparer à une épidémie, on ne peut pas le faire contre les populations, on doit le faire avec elles, et pour ça, il faut les écouter, les reconnaître, et c'est à ces conditions-là qu'on pourra les conseiller dans une meilleure gestion du risque épidémique.
D'autres mots de la fin ?
Merci beaucoup.
Ça va, t'as une petite conclusion ou...
Non, mais... Non, je ne me permettrai pas d'avoir une conclusion après l'exposé de...
Après, c'est vrai que c'est deux mondes, non, mais... deux mondes qui se rencontrent.
Non, mais c'est... Moi, je suis complètement... On a le regard médical et l'obligation qu'on a de répondre. Et puis après, il y a le regard global. Mais on a peu parlé, finalement, de cette problématique hors champ santé global sur les rapports Nord-Sud, parce que tu l'évoquais en introduction, parce que je pense qu'on en est là, et on en est là aujourd'hui sur une matière de santé, mais moi je suis presque plus terrifié sur la matière écologique aujourd'hui, et sur l'avenir du monde à travers cette problématique-là, parce que tout se rejoue, tout se joue, et tout s'est joué avant de la même façon en fait. Et ce qu'est le Gavi et le pétrole ou le plastique. Et on est toujours dans les mêmes problématiques, sans aucune fois finalement avoir la capacité de revenir en arrière et de modifier cette marche-là. Et finalement, nous, dans l'obligation d'une croyance, et finalement, moi, le soin n'a qu'une réalité dans l'acte individuel. Et la réalisation, on a cette chance-là. Et moi, je le vois dans mon métier, dans l'acte individuel. Mais dès qu'on prend un peu d'obligation de recul face à l'acte individuel, on est vite perdu sur les enjeux, et les enjeux, les expériences personnelles qu'on peut avoir à Esther, qu'on peut avoir au milieu du Cameroun, moi je suis allé sur la peste à Madagascar, sur ces choses-là, et finalement on est très mal à l'aise sur la réponse, on est très vite sécurisé dans notre acte thérapeutique, dans la réponse individuelle, et je trouve que c'est une chance, moi, dans le métier de médecin que je peux avoir, parce que dès que je viens à prendre du recul, je suis perdu sur les enjeux qui me dépassent totalement et qui sont là historiquement depuis des dizaines et dizaines d'années et qui vont finalement à la perte si on ne change pas, et pour globalement on ne change pas. C'est-à-dire que l'attitude qu'on a dans la santé ou dans l'écologie ou dans le comportement citoyen, si, le citoyen ça marche dans l'acte individuel et ça revient à l'acte médical à mon sens. Donc moi c'est de ça que j'aurais voulu presque encore plus parler, mais on pourrait parler des heures. C'est-à-dire qu'avec ce regard-là, finalement, cette capacité d'organiser et de donner des clés pour finalement mieux répondre, est-ce qu'il y a des changements ? Quels sont les changements opérants ? Et je m'excuse d'utiliser ce terme-là, c'est opérationnel. C'est-à-dire, moi je vois des changements sur la capacité d'écoute, la capacité de programme, sur notre approche. Mais globalement, on va dans le mur, et on va répéter ce truc-là des milliards de fois, en fait.
Depuis la RDC, l'OMS, l'UNICEF, tout le monde veut recruter des entrepreneurs. Mmh.
Ouais, mais sur le SIDA déjà en 90.
Oui, mais Madagascar aussi, on nous a demandé, voilà, il faut aller à Madagascar. Moi, je suis allé ni à Madagascar, ni en RDC, parce que je pense qu'aujourd'hui, mon travail est plus efficace. Si je réfléchis, si j'écris des choses là-dessus...
Il faut l'appliquer.
Mais l'application...
C'est
l'application, on a écrit des choses, mais en Guinée, en RDC, ils ont reproduit exactement les mêmes choses qu'en Guinée. Exactement les mêmes choses. C'était terrifiant. Et j'ai échangé avec un anthropologue qui depuis très longtemps est intervenu sur les épidémies, c'est Alain Pelbon. Il anime une liste d'informations sur ce qui se passe en RDC, et je mettais un mail en le remerciant en lui disant merci de continuer à nous informer. C'est désespérant de voir à quel point on reproduit les mêmes choses quand bien même on écrit. Et je lui disais, toi c'est un anthropologue qui a de la bouteille, il est sur le circuit depuis longtemps, je lui disais, c'est d'autant plus énorme de voir que tu es celui qui anime ça, alors que tu es celui qui sait bien que tout ce qu'on écrit n'a pas de pertinence, puisque on reproduit exactement les mêmes choses. Je vous recommande d'aller voir sur YouTube un film qui s'appelle Ebola, ce n'est pas une maladie pour rire. C'est un film qu'a fait Alain Epelboin pendant les premières épidémies d'Ebola au Congo. Vous l'appliquez à ce qui se passe aujourd'hui, c'est la même chose. Sauf qu'en fait, la vraie question, ce n'est pas est-ce qu'on sait comment techniquement répondre à Ebola, c'est comment on fait pour répondre à Ebola dans une situation où il n'y a pas d'État et où il y a des milices qui font la guerre, milices qui sont elles-mêmes auto-entretenues par la vente de diamants qui sont vendus à Anvers et chez des enjeux ou en Chine. Et donc les enjeux, en fait, sont...
C'est la problématique.
Ouais. Il faut plus qu'un virus pour faire une épidémie.
C'est ça.
Ok, ben ce sera le mot de la fin. Et ben merci bien. Merci de nous parler.
Merci à vous.